Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, première phase bouclée pour les tests de stimulation de la géothermie profonde. Les injections d'eau réalisées depuis la semaine passée se sont terminées hier. Des micro-séismes sans conséquences ont été enregistrés. C'est le premier cas documenté d'un procès de sorcellerie dans la région. Une autre série de la semaine revient aujourd'hui sur une affaire remontant à 1511. La condamnation d'une femme avait suscité un vif émoi au sein de la population. Mathieu Chèvre prend la route de la Norvège. Le sprinteur de la FSG Basse-Cour participe cette semaine au championnat d'Europe des moins de 23 ans et il ne manque pas d'ambition, notamment pour le 200 mètres. Le soleil sera de plus en plus présent cet après-midi. Les nuages pourraient faire de la résistance dans les franches montagnes. Le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés en plaine et 21 sur les hauteurs. La phase d'injection d'eau est terminée sur le site de géothermie profonde de Haute-Saône. La partie centrale des tests de stimulation hydraulique a pris fin hier. L'objectif était de provoquer des micro-événements sismiques pour récolter des données. Deux cycles d'injection étaient prévus pour y parvenir. Le premier aura donc suffi. Le directeur de Géoénergie Jura, Olivier Tsing.
Nous avons pu enregistrer une grande quantité de données microsismiques. Ces données vont maintenant pouvoir être analysées. Et puis, on sait aussi qu'il n'y aura pas besoin d'un deuxième cycle d'injection qui était optionnel lorsque nous disposons de suffisamment de données.
Parmi ces événements microsismiques que vous avez pu détecter, c'était l'objectif, il y en a eu deux qui ont atteint une magnitude de 0,3. Est-ce que ça, c'est problématique?
Non, ce n'est pas problématique. On a des microséismes qui s'étendent sur une gamme de magnitude à environ moins 3 jusqu'à légèrement au-dessus de 0. Les deux plus forts à une magnitude de 0,3 qui correspondait à un premier seuil de vigilance avec une suspension temporaire de l'injection. Donc, concrètement, il était prévu de stopper l'injection pour une période de 6 heures, d'observer le développement de la sismicité dans le réservoir et puis si le développement était normal, de reprendre l'injection. Donc, c'est ce qui a été fait après le premier événement et puis suite au deuxième, vu qu'on était proche de la fin de ces tests de stimulation avec le volume de 500 mètres cubes et puis qu'on avait suffisamment de données, il était décidé de mettre une fin définitive à cette phase d'injection des tests de stimulation.
Olivier Tsing répondait à Thomas Berbera. Le chantier du site de géothermie à Haute-Saône sera normalement démonté à la fin du mois. Les résultats de l'analyse des données récoltées devraient être connus d'ici l'automne. Des résultats qui serviront à juger de la poursuite ou non du projet. Les restrictions d'accès à la piscine en plein air de Porrentruy continuent à faire des vagues. La Fédération socialiste d'Ajoie et du Clos du Doubs s'oppose à cette mesure qui sanctionne toute une population, selon un communiqué publié ce matin. Elle estime que la piscine doit faire évoluer son mode de fonctionnement. La formation suggère notamment la formation du personnel dans la gestion des conflits et l'engagement de travailleurs sociaux. Le cinéma Lagrange va continuer d'exister à Delémont. 7 personnes se sont retrouvées hier soir et ont décidé de constituer un nouveau comité pour poursuivre les activités de la salle obscure de la vieille ville, selon un communiqué transmis ce mardi. La Delémontaine Coralie Frézard sera proposée à l'Assemblée Générale en septembre pour reprendre la présidence. La programmation devrait, elle, reprendre au début du mois de septembre. Les Suisses sont globalement satisfaits de leur vie. C'est ce qui ressort d'un sondage du comparateur en ligne Moneyland dévoilé ce mardi. La politique et la situation financière privée ont récolté par contre de moins bonnes notes. Interrogés sur leur satisfaction générale dans la vie, les participants à l'enquête ont indiqué en moyenne 7,3 points sur un maximum de 10. Par rapport à la dernière enquête menée il y a 2 ans, cette valeur est restée inchangée. On vous propose à présent un retour dans le temps. Toute cette semaine, nous reviendrons sur 5 procès en sorcellerie jugés dans la région entre le XVIe et le XVIIe siècle. Des affaires qui témoignent de la peur, des croyances et des tensions de l'époque. Aujourd'hui, nous remontons au début du XVIe. Il s'agit à ce jour du premier cas documenté d'un procès de sorcellerie dans la région, Thomas Nagy.
Les faits se déroulent en 1511. Une femme est condamnée pour sorcellerie et ses aveux sont lus en public. Un événement qui ne plaît pas du tout au prince-évêque qui estime que le châtelain de Porrentruy a agi de façon très imprudente puisque les révélations faites par la condamnée ont provoqué un vif émoi populaire. Jean-Claude Rebeté, conservateur aux archives de l'ancien évêché de Bâle.
Cette femme a raconté qu'elle déterrait des enfants pour les manger et puis pour se servir de leur graisse, je pense. Une partie de leur corps, ce n'est pas précisé pour faire des maléfices, en particulier susciter la grêle. Là où arrive le problème, c'est que cette femme a affirmé qu'elle déterrait en fait des enfants qui avaient été baptisés par des prêtres concubinaires, c'est-à-dire des prêtres vivant avec des femmes, donc des prêtres indignes. Or, cette affaire-là suscite une grande émotion dans la population, parce que ça veut dire que, comme pas mal de prêtres concubinaires à l'époque, eh bien, ça veut dire qu'on n'est plus sûr du tout de la validité des sacrements. Pour autant que cette femme dise juste, parce que normalement, les sorciers étaient réputés déterrer les enfants non baptisés, c'est-à-dire les enfants mort-nés, etc., ou ceux qui n'avaient pas pu être baptisés à temps. Le baptême faisant office, en quelque sorte, de protection. Or là, ce n'est pas le cas, donc grande émotion populaire.
Devant cet émoi et pour rassurer la population, l'évêque agit. Il émet des ordres stricts à l'attention du châtelain de Porrentruy.
Il va devoir rassembler toute la population, il précise, tous les hommes, toutes les femmes, en assemblée, pour leur expliquer que c'est une erreur, que ce que cette femme a dit là, c'était pour nuire, puisque c'est une sorcière, c'est normal, même dans ses aveux, elle va mentir pour continuer de faire du mal. Mais qu'en réalité, les prêtres, y compris les prêtres indignes, les prêtres concubinaires, donnent des sacrements valides, puisqu'ils ont été eux-mêmes consacrés.
La lettre de l'évêque fait donc comprendre qu'il ne s'agit pas du premier cas de sorcellerie dans la région. Elle traduit également certaines craintes de la population de cette époque.
Il y a une inquiétude dans la population, puisque cette histoire a suscité beaucoup d'émoi dans la région. Les personnes sont soucieuses de la validité des sacrements qu'elles reçoivent et sont aussi inquiètes, voire un peu fâchées peut-être, du comportement des prêtres ou d'une partie des prêtres qui ne suivent pas les règles qu'ils devraient.
Un sujet de Thomas Nagier. À noter que tous les documents mentionnés sont consultables en ligne sur le site internet des archives de l'ancien évêché de Bâle.
Vous écoutez RFJ, il est 12h22.
RFJ Sport.
L'Euro féminin donne le sourire à l'Association suisse de football. Alors que les quarts de finale vont débuter demain à Genève, le bilan est déjà très positif, avec d'excellentes affluences et un enthousiasme marqué. Et la qualification de l'équipe de Suisse en quart n'y est pas pour rien dans tout cela, selon Dominique Blanc, président de l'ASF. Alors qu'il quittera ses fonctions après ce tournoi, il s'agit d'un bel aboutissement.
Je le définirais comme l'été magique, Magic Summer, pour notre Nati, pour notre équipe nationale, pour le football suisse. J'ai fait mon travail de dirigeant, c'est-à-dire développer le football. Et développer le football, ça veut dire développer le football des femmes, puisque c'était la deuxième priorité fixée dans la stratégie 2019-2025. La première priorité, c'était les talents, hommes et femmes, et la deuxième, c'était un point particulier pour développer le football des femmes. Pourquoi en particulier les femmes? Parce que le football des hommes s'est développé aussi beaucoup pendant ce temps-là. La professionnalisation, c'est pour tout le monde, les hommes et les femmes. Mais il est vrai que en 2019, on devait faire le constat que les attentes des femmes n'avaient pas encore reçu les réponses qu'elles attendaient légitimement, et on a estimé que c'était vraiment le temps d'ouvrir toutes les portes pour leur faire la place. On y a cru vraiment, aussi parce que on a quand même beaucoup travaillé pour savoir ce que les femmes attendaient dans le football suisse. On a eu réponse à travers ce qu'on a fait dans l'association, et on a eu des réponses à travers les études qu'on a fait faire, qui nous ont montré qu'il y avait une véritable attente pour le football féminin en Suisse. Mon rôle de président et notre rôle de dirigeant, c'est de développer le football, là aussi en particulier, où il y avait une demande latente importante.
Les quarts de finale débutent demain avec la Norvège qui affrontera l'Italie. La Suisse, quant à elle, en découdra avec l'Espagne vendredi à Berne à 21h. C'est le grand rendez-vous de l'année qui est dans le viseur de Mathieu Chèvre. Le sprinteur de la FSG Basse-Cour participe cette semaine au championnat d'Europe des moins de 23 ans à Bergen, en Norvège. L'athlète jurassien sera aligné sur les qualifications du 200 mètres vendredi en espérant se qualifier pour les demi-finales, voire la finale de samedi. Il a battu son record personnel à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Il a récemment avalé la distance en 20 secondes 85 à Lausanne et Mathieu Chèvre est convaincu d'en avoir encore sous la semelle.
Techniquement, j'ai encore pas mal de marge, surtout au niveau du départ,
être plus, on va dire, plus relâché, plus économe en termes d'énergie pour pouvoir encore mieux finir. Et aussi à la Pontaise, c'est une course où j'étais relativement tout seul, j'avais pas beaucoup de concurrence. Il y avait une seconde entre moi et les autres, donc pendant toute la course, j'étais tout seul. Donc d'un point, c'était vraiment intéressant parce que je pouvais courir relâché, je pouvais faire mon schéma de course, c'était vraiment top ça. Mais après, toujours, bah, s'il y a quelqu'un devant soi, le mental a encore la niaque d'aller tout le temps chercher plus loin, tirer. Et puis ça, c'est bénéfice et inconvénient. Par exemple, justement, ça tire vers l'avant, mais aussi potentiellement après, ça se crispe. Et puis voilà quoi. Donc c'est ce que je devrais bien mettre en marche pour justement faire un temps encore meilleur là-bas.
Mathieu Chèvre qui sera au départ des séries du 200 mètres vendredi au championnat d'Europe des moins de 23 ans à Bergen en Norvège. Mathieu Juira s'est offert ce week-end un joli top 5. L'athlète de Moutier a pris la 4e place du général lors du semi-Ironman du Luxembourg. Il a bouclé les 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 4h13 minutes et 11 secondes, soit un peu moins de 6 minutes de plus que le vainqueur belge Ben De Wolf. Cette performance lui permet de se qualifier pour le championnat du monde d'Ironman 70.3 2026 qui se tiendra à Nice. Et pour terminer cette édition, RFJ souhaite rendre hommage à Jacques Chapuis qui est décédé dimanche. La Joulo a commenté pendant une quinzaine d'années les matchs du BC Boncourt sur notre antenne. Il y a plus d'un an, il avait été invité dans l'émission 40 ans, 40 voix pour revenir justement sur la tension qu'il pouvait ressentir en commentant du basket.
C'est épouvantable. Ça veut dire que c'est, plus on approche de la fin du match, plus il a la tension. Je ne sais pas s'ils font exprès ou quoi, mais le match, il joue dans les deux dernières minutes.
Et la voix doit tenir.
Bah, des fois, elle lâche. Hein. Une fois, je me suis retrouvé à parler un peu comme le père Foura du Fort Boyard. Heureusement qu'au studio, il y avait quelqu'un qui a pu me sauver en me disant « Écoute, repose-toi un petit peu, je reviens dans 5 minutes. » Mais je n'ai plus de voix, plus rien. Mais sinon, c'est formidable parce que tous les 24 secondes, il y a une action. Et ça doit se terminer par un tir, un panier, une ratée, n'importe quoi. Mais il se passe quelque chose. Et la difficulté, quand on est commentateur, c'est de pouvoir mettre des noms sur chaque joueur. Parce que ça va tellement vite, comme le disait Régis, qu'il faut pouvoir sortir le bon nom au bon moment.
Et ce jour-là, il les avait les bons noms lors d'un titre du BC Boncourt de champion de Suisse. On vous propose d'écouter un extrait.
Il reste 41 secondes à jouer. Et Boncourt qui mène de 8 points. C'est la fête dans Chaudron. Le Chaudron, oh là là. Il est en ébullition. Et 4, les joueurs ne veulent plus 4, jouer.
3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
ouais. On le tient.
Boncourt et champion suisse.
RFJ remercie Jacques Chapuis pour tout ce qu'il a apporté durant ses années de commentaires et notamment son émotion sportive. Nous sommes en pensée avec sa famille. Et de mon côté, je vous souhaite un bel après-midi. Merci pour votre écoute.
RFJ Sport.